friends. And so my boss is dead nine. So my boss is not 11.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur Radio G. Alors avant de commencer cette émission, bon anniversaire à Radio G qui fête, comme vous le savez, ses 40 ans. On remercie Fadi et Pierre-Benoît pour leur passe décisive d'il y a quelques minutes et on va essayer avec toute l'équipe de Génération Sport de concrétiser cette action en marquant le plus joli des buts. Et donc oui, comme vous le savez, Radio G fête ses 40 ans durant toute cette semaine. Aujourd'hui, les équipes de Radio G étaient en direct de Beaucouzé dans un bus Irigo et vous pouvez retrouver dès demain ce bus Irigo qui va se balader un peu dans tout le département. Demain, le bus Irigo sera à Trélazé pour toujours les 40 ans de la radio. À mes côtés aujourd'hui, l'équipe type, hein, l'équipe titulaire, Alex est avec moi. Comment ça va, Alex ?
Ça va bien, bonjour à tous et évidemment, joyeux anniversaire à Radio G donc pour ce beau quarantenaire.
Cédric sera à la régie ce soir. Comment ça va, Cédric ?
Eh ben écoute, ça va, on est une belle semaine sportive qui se prépare, entre ce soir avec la Ligue des Champions, demain la Coupe de l'Europa, les matchs de ce week-end et des vendredis pour nos clubs en juin.
Donc on a été gâtés.
Une belle semaine, ouais.
Et puis, qui dit troisième mardi du mois, dit émission spéciale EAB. Aujourd'hui, on reçoit un joueur de l'équipe de l'Étoile Angers Basket. On reçoit Stéphane Gauthier. Bonsoir Stéphane, comment ça va ?
Bonsoir, merci, ça va très bien. Et comme je vois, c'est un joyeux anniversaire à Radio G.
Et ben voilà, le message est passé. Ce sera Alex, hein, qui s'occupera de la partie interview. Et puis Alex, Cédric et moi, pardon, on viendra s'en mêler comme d'habitude. Et donc, avant toute chose, on va commencer par l'habituelle chronique d'actualité sportive. Rebaptisé récemment le 1-2. Alex, je te laisse commencer.
Et oui, on va commencer donc cette 1-2 avec les actualités locales. En handball, les Angevins donc, du SCO avaient un rendez-vous décisif en Alsace contre Strasbourg, lanterne rouge du championnat. L'occasion rêvée de glaner deux points précieux dans l'optique du maintien. Les SCOistes prennent le match par le bon bout, mais font preuve d'une certaine maladresse sur des tirs faciles. La faute notamment à un très bon Romain Mathias dans les buts strasbourgeois. Au terme d'une première mi-temps très serrée, c'est finalement les hommes de Guillaume Dupin qui repartent au vestiaire avec un maigre avantage d'un point grâce à l'ultime but de Grigorios Ioannou dans les dernières secondes de ce premier acte. La seconde période bascule davantage du côté des locaux qui arrivent à se créer des petits matelas de 2 ou 3 points, à chaque fois rapidement rattrapés par des Angevins déterminés à ne rien lâcher dans cette rencontre importante. La fin du match est irrespirable, d'autant plus que les Alsaciens doivent terminer les deux dernières minutes de la rencontre à 1 de moins suite à l'exclusion de Clément Damiani. À 31-29, les Noirs et Blancs parviennent à recoller à 31 partout grâce au but de Williams Manebar et Jordan Bonilori. Il reste alors 15 secondes et c'est finalement Léon Vuko qui offre un succès à Strasbourg. Cette cruelle défaite est un nouveau coup dur dans ce début de saison angevin qui prend donc provisoirement la direction de la lanterne rouge du championnat. Bon dernier, le SCO tentera de rebondir vendredi prochain à domicile contre Caen.
Et on va tout de suite continuer avec le SCO, mais on va changer de sport et de ballon. On va parler du SCO football qui jouait ce vendredi. Donc c'était face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour un des matchs les plus attendus de cette journée de championnat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Angevins ont réalisé un match très costaud, fidèle à leur mentalité et à leur vision de jeu. Les Angevins ont joué à 11 contre 11 et ont été très performants défensivement et surtout collectivement. Les Angevins menaient au score 1-0, un but signé Angelo Fulgini dès la 36e minute de jeu. Et puis les Parisiens ont déroulé leur jeu et ont réussi à tout d'abord accrocher le point du match nul face au SCO avec ce but de Danilo Pereira à 20 minutes de la fin du match. Et puis il y a eu un très gros fait de jeu, un but sur pénalty dans les dernières minutes de ce match, un pénalty très litigieux qui offre donc avec une transformation de Kylian Mbappé qui offre les 3 points au club de la capitale, 2-1 donc pour le Paris Saint-Germain. Le SCO, malgré cette décision d'arbitrage un peu difficile, n'a pas à rougir de ce match très costaud et pointe à une très belle 5e place de cette Ligue 1. Et le prochain rendez-vous des Angevins, ce sera face à Saint-Etienne vendredi prochain. Saint-Etienne, bon dernier de notre championnat qui reste sur 10 matchs sans victoire.
On peut peut-être juste rappeler pourquoi c'est litigieux. Alors, ceux qui n'auraient pas suivi le match.
Exactement, c'est bien de le signaler. Donc le pénalty a été revu par la VAR parce qu'il y a eu un tir contré par une main d'un défenseur angevin. Un tir de...
Alors c'est Pierre Capel, je crois, qui fait la main.
Et du coup, sur genre 5 secondes, 10 secondes avant dans l'action, on voit que Icardi, donc, qui continue l'action, fait une faute sur Romain Thomas, il me semble. Il le prend le bras, ouais, et il le tire vers lui, ce qui déséquilibre complètement le défenseur angevin. Mais la VAR a décidé de ne pas revenir sur cette faute-là, alors que la faute, elle est flagrante, mais a quand même décidé d'accorder le pénalty au PSG pour la main qui est arrivé donc un peu plus tard dans l'action.
Et c'est Mauro Icardi d'ailleurs, je crois, qui tire le ballon, enfin qui fait une tête et qui envoie le ballon sur la main de Capel.
Et sachant que la VAR est intervenue suite à une action du SCO, suite à la relance du gardien, donc il y a eu quand même facilement, on va dire, une bonne minute entre le moment où il y a eu
une occasion, même
voilà, une occasion juste après, voilà. Donc c'est pour ça que derrière il y a cette polémique autour de la VAR, j'ai envie de dire aussi toujours cette polémique aussi sur l'arbitrage des défenseurs. Parce que la main, là, pour moi, même si...
La main n'est pas très flagrante.
Elle n'est pas flagrante, il est en train de défendre, mais il tourne légèrement le dos et c'est ce qui suffit, je pense, à influencer pour un pénalty.
On va tout de suite enchaîner avec le basket. Le AB est reçu 5-5. La semaine fut de nouveau pleine de victoires pour les hommes de Sylvain Delorme qui ont prolongé leur invincibilité en National 1. Dans un premier temps, les joueurs de l'Étoile ont disposé facilement de l'Aurore Vitré à Jean-Bouin, 82-56. Une fois plus à domicile, les Angevins avaient rendez-vous vendredi soir avec Tarbes et le moins que l'on puisse dire, c'est que les coéquipiers de notre invité Stéphane Gauthier n'ont pas fait dans la dentelle. Succès 95-70 des Angevins. Une nouvelle large victoire qui soigne un peu plus donc leur différence désormais de plus 101 désormais. On reviendra donc sur toute l'actualité de l'EAB avec notre invité Stéphane Gauthier, un des hommes forts de l'équipe angevine cette saison. L'UFAB a connu un week-end plus compliqué avec cette première défaite de la saison en LFB concédée sur le parquet de Charnay, 75-70. Pas de quoi s'alarmer pour les joueuses de David Gauthier qui doivent désormais se tourner vers la réception des championnes de France en titre Latte Montpellier samedi prochain à Jean-Bouin. Mais avant ça, elles devaient affronter Montbrison hier soir en Coupe de France et ce ne fut pas chose facile. Les Angevines ont dû disputer une prolongation pour éliminer les Montbrisonnaises 78-74 et se qualifier ainsi pour les huitièmes de finale de la compétition. Du côté de Cholet, les Maugeois commencent à cumuler les mauvais résultats depuis plusieurs semaines maintenant avec une nouvelle déconvenue à domicile contre Paris 85-83, une défaite concédée dans les ultimes secondes de la rencontre qui englue un peu plus les joueurs de Laurent Villa dans le bas du classement de Betclic Elite.
Et on va terminer cette chronique d'actualité sportive du côté des actualités locales, du moins avec les Ducs d'Angers, pardon, on va parler hockey. Le dernier match en date des Ducs d'Angers, c'était vendredi dernier face aux Aigles de Nice. Et une fois de plus, les Angevins ont réalisé un très bon match avec une très belle victoire 3-0 sur la patinoire niçoise. Et donc au niveau du classement de la Ligue Magnus, c'est que du positif pour les Angevins qui pointent à la deuxième place avec un match de retard sur le premier Grenoble. Hein, pour rappel, les Angevins ont joué 7 matchs pour 6 victoires et une petite défaite. Alors normalement le mardi soir on a le droit à un autre match des Ducs d'Angers, hein, normalement en Ligue Magnus c'est ça, mais les Ducs ne jouent pas ce soir, ils joueront cependant demain en Coupe de France, ils entameront leur compétition de Coupe de France face à Tours et puis le prochain match de Ligue Magnus ce sera tout simplement le match le plus attendu de la saison. Je me retourne vers Cédric parce que je sais qu'il va assister à ce match et donc est-ce que tu peux un peu nous teaser cette rencontre?
Ouais, c'est une rivalité un peu historique entre les deux clubs, puisqu'on va jouer contre Rouen qui est le champion sortant. On sait que généralement ces deux équipes qui rivalisent pour le titre, généralement c'est des très beaux matchs. Alors des fois les scores sont fleuves, mais en tout cas il y a toujours du spectacle, il y a toujours de l'envie. C'est en quelque sorte, on va dire, un derby du hockey français.
Un classique,
oui. Parce que bon, il y a la distance.
Il y a quand même une bonne distance.
Il y a une bonne distance, mais ça va. Quoi, mm-hmm. On dit bien des fois pour Marseille que c'est Paris, que c'est un derby, je sais maintenant. Mais voilà, non, c'est, en tout cas, c'est un des matchs importants. Je crois que juste derrière, il y aura la réception de peut-être de Grenoble, de mémoire. Donc en tout cas, oui, trois gros matchs d'affilée. Voilà, on espère que si la Coupe de France, peut-être un turnover comme ça pour lancer de nouveaux joueurs. Peut-être reposer aussi l'équipe, puisque mine de rien, le parcours pour l'instant a été un petit peu semé d'embûches. On s'est fait des frayeurs sur certains matchs. Mais en tout cas, voilà, on aborde cette rencontre pour vendredi. Serein, je dirais.
Et donc voilà, si vous voulez voir des buts, si vous voulez voir de la glace et si vous voulez voir surtout du spectacle, le rendez-vous est donné donc à la Ice Park. Ce sera vendredi soir. Il doit rester encore quelques places.
Il y a quoi, peut-être une heure. J'ai regardé vite fait sur leur site et sur Twitter. Il restait quelques places debout. Donc
voilà, profitez-en si vous voulez aller voir un très gros
ambiance
match.
Ambiance assurée, quoi.
Voilà, c'est ça. L'ambiance toujours à l'Ice Park pour un très très gros match.
On va donc passer sur les actualités internationales. On va retourner sur du basket, puisque l'événement de la semaine, c'est le début de la saison régulière 2021-2022 de NBA. Cette nuit débute en effet la 73e saison du plus grand championnat de basket au monde. Chers amateurs de basket, il faudra veiller tard pour assister à ces débuts, puisque le match inaugural de la saison opposant les Milwaukee Bucks, champions en titre, aux Brooklyn Nets, commencera à partir de 1h30 du matin, heure française. À 4h, les Los Angeles Lakers défieront quant à eux les Warriors de Golden State. Mais il n'y a pas que la NBA évidemment sur la planète basket, il y a aussi l'Euroleague. Nos clubs français ont été d'ailleurs plutôt en réussite la semaine dernière. L'ASVEL a disposé du cador européen l'Efes Istanbul, victoire renversante 75-73. Chez les femmes, autre exploit, puisque Basketland est venu s'imposer contre un autre favori turc. Cette fois c'était contre le Fenerbahçe, succès 70-65.
Et on va parler avec, on va entamer pardon, la grosse page consacrée au football, avec tout d'abord la Ligue 1 qui a débuté. Donc la 10e journée de cette Ligue 1 a débuté vendredi dernier par la victoire parisienne face aux Angevins. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Clermont de son côté a retrouvé le chemin de la victoire face aux champions en titre, face à Lille, victoire donc de Clermont 1-0. Lyon continue de retrouver la forme avec cette victoire face à Monaco 2-0. Nice chute enfin à 3, victoires des Troyes 1-0. Bordeaux et Nantes se sont neutralisés un partout, tout comme Brest et Reims. Le gros score du week-end, c'est Strasbourg qui inflige 5-0 à Saint-Etienne qui est toujours bon dernier de notre championnat. Rennes également qui réalise un très bon match avec cette victoire 3-0 face à Metz. Montpellier fait chuter Lens avec cette victoire courte, mais victoire quand même 1-0. Et puis l'Olympique de Marseille qui retrouve les chemins de la victoire avec cette belle victoire 4-1 face à Lorient. Si on jette un coup d'œil au classement, le PSG est toujours bon premier de notre championnat, suivi par Lens et par l'Olympique de Marseille. Et puis en fin de classement, on retrouve Brest et Saint-Etienne qui ont toujours aucune victoire en 10 matchs joués. On va basculer maintenant sur la Ligue des Champions qui reprend dès ce soir avec le Paris Saint-Germain qui joue face au RB Leipzig, le PSG qui est premier de sa poule et qui doit battre le club allemand pour consolider cette place. Et puis demain, c'est Lille qui jouera son troisième match. Ce sera face à Séville. On espère que les Lillois vont se réveiller parce qu'il me semble qu'ils ont un petit point en deux matchs. Et puis enfin, les autres clubs français qui sont en course en Coupe d'Europe, ce sera l'Olympique de Marseille, ce sera en Europa League, l'Olympique de Marseille qui se déplacera pour un très gros match à Rome pour y affronter la Lazio. L'Olympique lyonnais qui est serein dans cette Europa League se déplacera à Prague pour y affronter le Sparta Prague. Et puis enfin, troisième club français pour un troisième déplacement, ce sera Monaco qui se déplacera au PSV Eindhoven.
On va peut-être faire un petit point score d'ailleurs pour la poule du PSG. puisque Bruges joue contre Manchester City
actuellement,
enfin c'est la mi-temps actuellement même.
Alors c'est même plus de la mi-temps.
Oui,
c'est la 70e. On joue la 70e minute de jeu et il y a 4-0 pour Manchester City.
Ah bah sur l'équipe c'est pas à jour.
L'équipe mais, aussi, voilà.
Mais en tout cas voilà, donc je crois que c'est clair pour Paris ce soir, aucun droit à l'erreur pour conserver cette première place.
Victoire obligatoire.
On continue par un mot d'athlétisme. C'était ce week-end le marathon de Paris. Cette course donc ouverte aux professionnels comme aux amateurs, d'un peu plus de 42 km qui sillonnaient les rues de la capitale française. Le projet de mixer donc amateurs et professionnels a pour vocation à être donc prolongé pour les Jeux de Paris 2024. Quelque chose évidemment d'inédit dans l'histoire des Jeux. On va revenir à la course de dimanche. Chez les hommes, le Kenyan Elisha Rotich a remporté l'épreuve en y établissant un nouveau record de 2h, 4 minutes et 21 secondes. De son côté, le Français Johan Durand était le premier Européen à finir ce marathon en devenant également le 13e tricolore de l'histoire à descendre sous les 2h10. Chez les femmes, c'est l'Éthiopienne Tigiste Memouye qui s'est imposée en 2h26 minutes et 12 secondes, de 2 secondes devant sa compagne Patriote Yenenech Dinkessa. Le podium a été complété par une troisième éthiopienne, puisque c'est Fantou Jima qui termine à 9 secondes derrière la gagnante Memouye.
Et on va terminer ce 1-2 avec un petit point sur le tennis et sur le Master 1000 d'Indian Wells, où on a pu suivre le parcours de Gaël, mon fils, qui s'est malheureusement arrêté en 8e de finale face à un très grand Alexander Zverev. Le numéro 3 mondial a remporté ce match donc en 2-7, 6-1, 6-3, et on s'attendait donc à une finale homme entre Zverev et Tsitsipas, et finalement non, les deux hommes sont tombés dès les quarts de finale et on s'est donc retrouvé avec une finale inédite, entre le Britannique Cameron Norrie et le Géorgien Nikolaos Basilashvili. Désolé pour la prononciation, et c'est finalement le Britannique Cameron Norrie qui l'a emporté en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1.
Voilà pour ce 1-2 qui a résumé toute l'actualité donc du sport. Je me retourne vers mon invité. Donc ce soir, je le disais, c'est le début de la NBA. Toi Stéphane, est-ce qu'il y a une équipe en particulier que tu supportes en NBA?
Je dirais les Lakers, parce que j'étais un grand fan de Kobe, donc je dirais les Lakers.
Ok, bien. Donc match donc des Lakers dès cette nuit contre Golden State. On va je vais me retourner vers la régie, puisque avant de démarrer l'interview, il y a un petit générique qui nous accompagne. Les habitués de la salle Jean-Bouin et des matchs de l'UAB, vous avez sûrement reconnu c'est la musique d'entrée des joueurs donc sur le parquet. Donc voilà, nous sommes en direct avec Stéphane Gauthier, joueur à l'UAB. Stéphane, je vais te présenter un peu pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Tu es donc joueur de professionnel à l'Étoile Angers Basket. Tu es né en 1995 à Bergerac. Tu mesures 1m92 et tu évolues au poste 2. Est-ce que j'ai bon?
C'est ça.
Nickel. Tu as commencé ta carrière du côté de Boulazac. Le club évoluait déjà à un très bon niveau. Tu as même eu l'occasion de faire quelques matchs dans ce qui était à l'époque la Pro A. Et puis en 2018, tu rejoins le Havre pour un nouveau challenge en National 1. C'était pour toi une volonté de gagner du temps de jeu dans un club de 3e division?
Ouais, bien sûr. Après, quand je sortais de ma saison en Pro A avec Boulazac, j'ai fait une dizaine de matchs et j'ai eu une blessure grave au genou qui m'a arrêté pendant un an. Donc, quand je suis revenu, avec eux dans l'effectif, j'étais un peu à court de forme, manque de temps de jeu, etc. J'ai joué plus beaucoup, donc j'ai demandé au staff de me laisser partir, et ils m'ont laissé partir du coup en National 1 au Havre, et voilà.
Et du coup, en 2019, tu commences l'aventure à l'Étoile Angers Basket. Comment s'est passé ton arrivée à Angers?
Je voulais rejoindre un gros projet de National 1 ou aller en Pro B. Finalement, sur les contacts que j'ai eus, le plus intéressant pour moi, c'était d'avoir un gros temps de jeu avec un bon rôle dans une équipe qui voulait monter en Pro B. Donc Angers était pour moi le bon projet.
J'aimerais faire un petit retour en arrière de 2 ans, lors de cette fameuse saison 2019-2020. Le AB était alors un des favoris de la saison pour la montée en Pro B. Personne ne s'en était caché d'ailleurs. C'était l'objectif du club, d'autant plus avec les fameuses 10 victoires lors des 10 premiers matchs de la saison. Comment vous avez digéré cet arrêt brutal du championnat qui a évidemment annulé toutes ces possibilités d'aller en Pro B?
Ça a été compliqué malgré tout parce qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. La plupart des joueurs étaient restés dans le coin parce que la fédération, on ne sait pas si on allait reprendre, on ne savait pas comment le Covid évoluait, etc. Donc pendant un bon mois, on essayait de se tenir en forme et de se préparer pour pourquoi pas une fin de saison. Donc c'était quand même assez compliqué, on était premier au classement. Donc voilà, on l'a pas forcément mal vécu. Il y a des joueurs qui sont partis derrière. On savait pas jusqu'à fin juin si on allait monter ou pas. Donc compliqué pour le club, etc. Et finalement, la Fédé a décidé de faire une saison blanche. Donc aucune montée, aucune descente. Et du coup, on est reparti l'année dernière en National 1.
Et du coup, tu penses qu'à l'époque vous auriez pu rejoindre la Pro B s'il n'y avait pas eu ce Covid?
On ne saura jamais de toute façon, mais forcément parce qu'il y a des playoffs, il y a une deuxième phase qui allait se jouer, donc voilà, on peut pas dire qu'on allait monter obligatoirement, mais on était promis, on était bien parti, on était dans les objectifs du club, donc voilà, malheureusement on le saura jamais, mais je pense qu'on avait toutes nos chances. Ouais.
La dernière, elle a été un peu plus délicate pour vous. Vous avez côtoyé plus le milieu de tableau dans une saison où il n'y a pas eu de play-off. Qu'est-ce qui a, de seconde phase, qu'est-ce qui a provoqué cette saison en demi-teinte selon toi?
Il y a des joueurs qui sont partis suite à la première très bonne saison. Il y a des joueurs qui sont arrivés. Ça n'a pas forcément matché comme on le voulait. Alors, on était très attendus après la bonne première saison. Donc forcément, voilà, c'est toujours compliqué de finir premier deux fois d'affilée avec des nouveaux joueurs, un nouvel environnement, etc. Ça n'a pas pris dans un contexte particulier qu'on connaît tous. La saison a été arrêtée plusieurs fois pour nous, ouais, avec des cas de Covid, des joueurs blessés, des joueurs qui n'ont pas pu venir de l'étranger. Je pense à Mohamed Choua qui est marocain, qui n'a pas pu partir de son pays pour nous rejoindre. Donc forcément, voilà, ça a été une saison compliquée qui était vite oubliée. Et voilà, on est reparti sur de nouvelles bases.
Et pour rebondir sur ce sujet-là, est-ce que tu penses aussi que vos différents adversaires avaient peut-être plus d'envie avec ce fait d'avoir eu cette saison blanche au final qui a récompensé personne? Est-ce que t'as ressenti que les autres clubs avaient un peu plus de niaque que les autres années pour aborder cette saison?
Ouais, bien sûr. Après, quand on joue un favori, les équipes se transcendent dans tous les cas. Donc, on était annoncé quand même dans les favoris avec la première très grosse saison, avec des entre guillemets des gros noms de la division. Donc, forcément, les joueurs qui sont en face attendent ces matchs particulièrement. C'est comme par exemple le SCO qui joue contre. Bon, on n'est pas le PSG, mais contre ces équipes-là, ben forcément, on se transcende et voilà, on a subi un peu ça toute la saison.
Et ça a été vraiment une saison galère pour vous. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs reportés, beaucoup de cas de Covid. Comment vous avez vécu ça, vous, à l'intérieur du groupe?
Bah, c'est assez compliqué parce qu'on arrive un jour et le lendemain on ne sait pas si on va s'entraîner ou jouer. Donc ça nous arrivait plusieurs fois le vendredi de limite partir en déplacement et de le jour même te dire non, finalement on ne part pas parce que le joueur adverse a un cas de Covid ou toi finalement tu as reçu un test positif. Donc c'était vraiment particulier. Tous les matchs ont été à huis clos ou presque, parce qu'en début de saison, il y a dû y avoir 3-4 matchs à domicile qui sont joués avec un peu de public, mais bon, c'était c'était vraiment particulier. Et toute la saison à huis clos, avec le contexte qu'on connaît, c'était vraiment particulier, pas habituel, je dirais, pour nos joueurs.
Ça vous a pesé justement, ça, ces matchs à huis clos tout au long de la saison?
Ouais, c'est pesant parce que forcément, quand on a un public qui pousse et quand on joue devant personne, t'as l'impression que c'est un match d'entraînement. Il n'y a pas de, y a pas d'émotion, il y a pas de tout ça, donc il y a pas d'ambiance, donc c'est quand même vraiment particulier de jouer dans ce contexte-là. Mais bon, après voilà, il a fallu qu'on s'adapte, on pouvait pas se plaindre parce que nous on continuait notre activité, donc voilà, on a essayé de faire le maximum, mais la saison n'a pas été bonne sur les résultats en tout cas.
Sur la fin de saison, il y a eu quand même un bon enchaînement. Je crois qu'il y a eu 6 victoires d'affilée sur la toute fin. Comment tu l'expliques ? Il y a peut-être eu un côté, bon bah on est dans le milieu de tableau, on donne tout sur la fin quoi.
Ouais, bien sûr, on n'était pas satisfait de nos résultats avec beaucoup de blessures, etc. On a récupéré tous nos joueurs sur la fin. Ben voilà, on avait à cœur de prouver que nous, on n'était pas à notre place et que voilà, notre place, elle était plus haut. Et du coup, ben, on a fini très fort. Malheureusement, il n'y avait pas de play-off ou de suite après cette première phase, donc on n'a pas pu concrétiser ça par peut-être une montée. Mais voilà, ça nous tenait à cœur de montrer que c'était pas notre place, la 7e place. Ouais.
Je me retourne vers mes collègues. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à notre invité ?
Ça te fait quoi de porter le numéro 24 ? Puisque alors, bah, en off, tu nous expliquais que tu étais fan des Lakers.
Ouais.
Et alors, du coup, forcément, on pense à 24.
Je crois qu'il a changé entre temps, c'est ça ?
Ouais, là, cette année, je reporte le 10.
T'as changé du coup.
Parce que je portais le 24 l'année dernière, la saison s'est pas bien passée. Je suis pas forcément superstitieux, mais voilà, j'ai reporté le 10 qui me tient un peu plus à cœur. L'année dernière, avec le décès de Kobe, bah voilà, j'avais envie de porter le 24 parce que voilà, c'était son numéro à la fin de sa carrière et ça représente aussi mon département qui est la Dordogne. Donc c'est le 24. Donc c'était un tout qui a fait que j'ai pris le 24. L'année dernière, mais je suis revenu sur le numéro 10. Ouais.
Max, une question ?
J'ai remarqué qu'on a beaucoup parlé des saisons précédentes, mais justement pour cette saison-là, qu'est-ce qu'on peut. Alors j'imagine que la question aura été posée, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, on imagine, de tout le temps de gagner tous les matchs et puis d'aller chercher la place au classement le plus haut possible ?
Ouais, bien sûr. Alors nous, on veut encore une fois monter. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup plus que la première année où on était annoncé vraiment favori quand on a fait 9 victoires d'affilée, il me semble. Là, il y a des équipes qui se sont vraiment renforcées avec des gros budgets, des équipes qui sont descendues l'année dernière. C'est un championnat un peu plus homogène. On est très bien parti avec 5 victoires d'affilée, mais voilà, on va jouer des gros matchs dans les semaines à venir. On fera le compte, je pense, à la fin de la première phase, mais forcément, ben, le club, l'objectif des dirigeants, de tout le monde, c'est de monter en Pro B, donc c'est ce qu'on peut nous souhaiter. Ouais.
Est-ce que vous attendiez à un tel début de saison, ou alors vous étiez convaincu de vos qualités, mais vous saviez que ça allait être très très compliqué?
Non, convaincu, non, parce qu'on n'était que 3 anciens joueurs de l'année dernière, donc quand il y a 8 nouveaux joueurs quand même dans l'équipe, donc quand il y a autant de nouveaux joueurs, on ne sait pas comment la chimie va prendre, le jeu, comment de chacun, on se connaît que très peu, donc on ne s'attendait pas forcément que ça prenne aussi vite, la chimie est très bonne, l'ambiance également, donc voilà, c'est un tout qui fait que notre début de saison en tout cas est très bon, et voilà, mais ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend particulièrement.
Ce qui avait un peu marché il y a 2 ans, il y avait aussi un gros renouvellement de cet effectif il y a 2 ans et au final ça avait bien marché.
Ouais, c'est vrai, après avoir des gros joueurs, des gros noms, c'est pas forcément ce qui marche directement. S'il y a une alchimie, une bonne ambiance, c'est ce qui prime surtout pour se défoncer pour les copains quoi.
On va effectivement un peu revenir sur ce début de saison. C'est vrai que la saison dernière, la préparation était un peu compliquée. C'était Johan Rendet-Tuville qui nous avait dit qu'il ne sentait pas trop l'équipe avec plutôt des défaites lors des matchs amicaux de pré-saison. Là, il y a eu beaucoup de victoires cet été. Comment toi, tu as senti l'équipe ? Vous êtes bien rodé rapidement ?
Ouais. Alors il faut savoir qu'en préparation, on n'a pas eu de défaite. On a gagné tous nos matchs de préparation. On a eu un match de Coupe de France contre Paris qui a 2 niveaux au-dessus de nous, donc en fait l'équipe est on était devant à 5 minutes de la fin. On manque un peu de gaz sur la fin et du coup on finit par perdre. C'est notre seule défaite. Donc on est environ, si on arrive ce match de Coupe de France qui a 2 niveaux de plus que nous, on est sur 12 matchs sans défaite.
Ouais, donc, c'est bon, énorme.
Avec le championnat compris, donc on est vraiment sur une dynamique. Très en confiance et une bonne dynamique. Ouais. Et
plus en plus, les fins de match, enfin la fin de saison de la dernière.
Ouais,
ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de victoires maintenant à l'EAB. Qu'est-ce que tu penses des recrues qui sont arrivées ? Comme tu disais, il y en a eu beaucoup. Qu'est-ce qu'elles apportent au groupe par rapport aux
niveau.
Mais le staff et la cellule de recrutement a fait un excellent travail. Ils ont pris vraiment chaque joueur avec des objectifs particuliers pour que l'équipe soit homogène et complémentaire. Et c'est vraiment le cas. Ils ne sont pas trompés sur aucun joueur. Donc c'est plutôt plaisant. Après, sur l'humain qui est très important, ils ne sont pas trompés non plus. Il n'y a que des super mecs. Il y a vraiment une super ambiance. Donc là-dessus, il n'y a rien à redire.
Ça s'est bien passé, leur intégration au sein de l'équipe ?
Ouais, super. Ouais.
Je vais avoir une petite dernière question et après je passerai la main à Cédric. Karim Gouari, c'est aussi, un peu comme toi, un des hommes forts de cette équipe. Comment tu qualifierais ta relation avec lui sur le terrain ? Est-ce que tu as découvert, peut-être tu l'as découvert quand il est arrivé à Angers ?
Karim, ça fait un petit moment qu'on joue l'un contre l'autre. On se connaît de par... on a fait quelques gros matchs, enfin, on va dire l'un contre l'autre auparavant, avec des demi-finales de championnat de France, etc. Donc bon, on se connaît l'un contre l'autre. On se connaissait pas humainement ni vraiment dans une équipe. Il a joué avec moi l'année dernière. Ça s'est pas forcément bien passé pour l'équipe. Mais voilà, après, Karim, c'est un joueur d'expérience, un très beau, très gros QI basket. Il connaît très bien la division et voilà, c'est pour ça que c'est un homme fort dans notre effectif.
Je vais laisser la main à Cédric. Je crois que tu as aussi quelques petites questions à poser à notre invité.
Oui, tu as testé la nouveauté de cette saison. On n'a pas encore trouvé de nom pour ce type de question.
On y travaillera.
On y travaillera puisque c'est une idée qui a germé cet après-midi dans ma tête.
Un éclair de génie.
Voilà, ouais. Je sais pas, on verra une fois qu'on aura fait le bilan. Mais ça va être tout simple, je vais te faire deux propositions. T'en choisis une ou tu peux même choisir les deux. Et si tu veux les justifier, bah tu justifies. Donc ça, on va parler un peu de sport, mais ça va être aussi pour mieux te connaître, toi, juste la personne et pas forcément le sportif.
Ça marche.
Donc la première question, elle est toute simple. T'es plutôt nourriture traditionnelle ou exotique ?
Traditionnelle. Je viens de Dordogne, c'est trop important. Le canard.
T'es plutôt de nature calme en dehors des terrains ou on va dire festif?
Non, je suis très calme, très casanier. Je me sens très bien chez moi, c'est très bien comme ça.
On a eu déjà la réponse, mais il fallait la poser. T'es plutôt Chicago Bulls ou Lakers?
Ouais, Lakers.
Ouais, s'il dit Chicago, je quitte le studio, je rentre chez moi.
Ça dépend, si c'était les Chicago de 92, à l'époque Jordan, ça peut changer. Une question qui a été inspirée par l'émission de ce week-end de Générique. Plus jeune, t'étais plutôt team Olivier Thom ou team Jeune et Serge ?
Alors, Jeune et Serge, je ne connais pas.
C'est le volet, non ?
C'est le volet, voilà.
Ouais. Ah ouais, du coup, je dirais Olivier Thom, parce que Tom. C'est vraiment un des cinémas que j'adorais, mais ouais.
Mais Jeanne et Serge, ça date de combien de temps, ça ?
Mais de la même époque. Hein.
Mais ça me dirait, mais je sais, j'ai jamais regardé, moi.
Et du coup, la dernière question, peut-être que là aussi vous en avez trouvé entre-temps. Tu préfères avoir une saison avec 100% de victoire et mettre fin à ta carrière ou continuer, mais en ayant eu une saison difficile?
Ah, c'est compliqué quand même, pense. C'est compliqué parce que les saisons difficiles, c'est dur mentalement, physiquement. On perd beaucoup d'énergie, on passe pas une bonne saison. C'est vraiment compliqué. Après, pour avoir vécu une montée, ça me dérangerait pas de finir ma carrière sur une montée à 100% de victoire.
Okay.
Et justement, cette petite question, on a fait germer une chez moi. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'importance du public chez toi, et donc ça va découler sur cette question. Tu préfères gagner le championnat sans public ou à chaque match à Jean Bouin, c'est complet, le public est en folie et à chaque match à domicile vous avez des victoires. Vous gagnez pas le titre, le championnat au bout, mais à chaque match à domicile le public est là et répond présent.
Je dirais que dans le contexte actuel, je préférais que Jean-Bouin soit plein, parce que on l'a vraiment vu là sur les 5 premiers matchs, on procure beaucoup de plaisir et les gens vraiment sont ravis de venir à la salle, parce que avec le Covid ça a été compliqué pour eux aussi. Donc je pense que voilà, une salle pleine, plus l'enthousiasme de chacun, c'est vraiment un plaisir. Nous on prend en tout cas vraiment plaisir que gagner un championnat dans une salle vide. On a gagné le championnat, mais l'émotion n'est pas pareille, donc je pense que je préférerais quand même une salle pleine.
Très bien. Eh bien, écoute, on va passer tout de suite à une petite pause musicale, puis après on reprendra la suite de l'interview.
Et puis j'invite à nos auditeurs à nous envoyer des questions pour dès la semaine prochaine, puisque normalement on aura
effectivement une joueuse de l'IFAB 49. Donc
voilà, on pourra remettre en place ce petit questionnaire. Pour la prochaine émission. Et niveau musical, on va écouter Avril Lavigne avec un classique, Skater Boy.
Retour dans les studios de Radio G pour la suite F1. de votre émission Génération Sport. On est toujours en direct avec Stéphane Gauthier, joueur de l'Étoile Angers Basket. On va tranquillement reprendre le fil de l'interview. Effectivement, donc c'est un plutôt bon début de saison hein, pour votre équipe. Puis même, d'un point de vue personnel, tu as notamment été élu MVP de la deuxième journée. Et puis même l'année dernière, tu culminais à 14,5 points par match en moyenne. Tu as été un des meilleurs joueurs du championnat. Est-ce que tu as senti que tu prenais une nouvelle dimension lors de la saison passée?
Mon rôle a un petit peu changé. L'année dernière, j'étais plus dans un rôle de scoreur, etc. Donc, je dirais que j'ai essayé de l'assumer un peu plus. Mais ça a été une saison compliquée collectivement. Donc, ça compte pas pour grand-chose, on va dire. Je préfère largement baisser mes stats et faire une saison pleine collectivement.
Pour le coup, cette saison, ça continue bien. Et puis, pour le coup, il y a les résultats qui suivent collectivement.
Voilà, je fais un bon début de saison. Après, on sait que ça peut baisser rapidement comme monter rapidement. Et pour l'instant, je me sens très bien avec le coach. Le coach me fait énormément confiance avec un rôle qui me convient parfaitement. Et c'est pour ça que je suis resté ici. Quand j'ai entendu le discours du coach, ça m'a fait re-signer ici.
Eh bien, la transition est tout trouvé pour ma prochaine question. Effectivement, l'intersaison a été marquée par un changement d'entraîneur à la tête de l'équipe. Comment vous, joueur, vous avez d'abord, dans un premier temps, appris le départ de Laurent Buffard? Comment vous l'avez vécu?
Ça a été assez simple. On l'a su pendant la saison qu'il voulait changer d'entraîneur. Qui voulait changer d'entraîneur, bien sûr, à la fin de la saison. Il est arrivé à terme de son contrat. Et comme on l'a compris, c'est que c'était un fin de cycle, qu'il fallait repartir sur quelque chose de nouveau avec une saison qui n'était pas forcément bonne. Donc on l'a pris, c'est pas, on va dire, trop nos opinions. Moi, j'étais en fin de contrat, donc je savais pas si j'allais rester ici. Mais on l'a pris comme ça.
Ok. Et du coup, Sylvain Delorme, il était déjà au club, donc un petit peu avant son arrivée au poste d'entraîneur de l'équipe première. Est-ce que vous l'avez déjà côtoyé, vous, joueur, déjà un peu auparavant?
Moi, je l'avais jamais côtoyé. Je l'avais jamais. On s'était jamais parlé ou autre. C'est un coach que j'avais vu coacher contre des équipes jeunes. Quand j'étais à Boulazac, j'avais vraiment aimé sa manière de coacher, sa pédagogie, etc. Le président m'avait sondé un petit peu sur des noms, et moi je lui ai dit que Sylvain Delorme, de l'extérieur, c'était quelqu'un qui me semblait très bien pour l'équipe, et pour l'instant c'est le bon choix, donc j'en suis plutôt ravi.
Et du coup, lorsqu'il est devenu officiellement votre entraîneur, comment s'est passée la transition?
Dans un premier temps, je savais pas si j'allais rester à l'EAB. Je pensais pas rester parce que mon objectif était vraiment de revenir en Pro B. Le discours du coach m'a vraiment convaincu avec le rôle qu'il voulait me donner. Ça a tout de suite matché le jeu qu'il voulait proposer. Donc j'ai décidé de rester ici et je suis très content.
Il a beaucoup joué dans ta prolongation, Sylvain Delorme?
Ouais, complètement. Hein. C'était un autre coach ou autre, je pense que je ne serais pas resté. Il a effectivement joué entièrement, je pense, dans cette prolongation.
Et du coup, d'un point de vue technique et même collectif, qu'est-ce qui change par rapport à Laurent Buffard? Et puis, qu'est-ce qui vous apporte au quotidien?
C'est deux coachings différents. Sylvain a un jeu vraiment basé, très agressif. Il donne beaucoup de liberté aux joueurs avec une certaine hiérarchie. Après, la différence avec Laurent, c'est que il avait un jeu un peu moins agressif, plus basé demi-terrain, alors que là c'est vraiment un jeu qui est porté sur la contre-attaque, sur beaucoup d'agressivité, tout ça. Donc voilà, ce sont deux coachs différents, mais voilà.
Évidemment, je voulais parler d'un autre point de ta carrière qui est très important, c'est le fait que tu exerces une autre discipline très légèrement différente du basket, c'est le basket à 3. Comment tu as découvert la pratique de ce sport?
Alors je l'ai découvert il y a environ 7-8 ans en championnat de France universitaire. On a été champion avec, avec mon équipe de Blazec, enfin mon équipe de Bordeaux, c'était l'université de Bordeaux. On a été champion de France, c'est ce qui nous a permis de faire un championnat d'Europe en Serbie. Et ensuite à ça, j'ai été en équipe de France universitaire où j'ai fait un championnat du monde au Brésil. Et là, j'avais stoppé parce qu'avec ma blessure au genou, je pouvais pas continuer les étés à pratiquer le 3-3, plutôt à me reposer pour me soigner. Et du coup, j'ai repris récemment, là, il y a 2 ans, le 3-3 où on a fait des bonnes performances en France. Et du coup, j'ai été pris en sélection l'équipe de France 3-3.
Du coup, comment ça se passe? Comment tu participes à des compétitions par rapport au, évidemment il y a un calendrier en national qui est très chargé, comment ça se passe pour gérer les deux, la compétition c'est à peu près quel moment de l'année?
Le 3-3 c'est normalement ça va commencer à se professionnaliser en France, ça l'est déjà dans d'autres pays, mais normalement ils vont essayer de créer un championnat en même temps que le 5-5, donc quand ça sera en même temps forcément c'est okay. Pas compliqué, mais dans les 3-4, enfin les 10 dernières années je dirais, le 3-3 est une discipline qui se joue beaucoup l'été parce que c'est une discipline qui se joue de plein air, donc forcément il faut qu'il y ait une bonne saison on va dire, donc ça commence à peu près en mai voire un petit peu avant jusqu'à août.
Et quelles sont les spécificités par rapport au basket à 5? Quelles sont les différences?
Il y a beaucoup de responsabilités, de 1 contre 1, il faut savoir faire beaucoup de choses sur le terrain, il faut savoir défendre sur un petit ou sur un très grand. Alors que sur le 5-5, c'est vraiment plus tactique, on va dire. Il y a plein de combinaisons qui font que ça met en valeur un joueur. Alors que sur le 3-3, on peut pas se cacher. Si on a un point faible, on est de suite ciblé.
Et donc tu le disais, tu as même été sélectionné en équipe de France de basket à 3. J'imagine que c'était un honneur pour toi de revêtir le maillot bleu.
Ouais, bien sûr. Après, j'étais dans une pré-sélection. Pour participer aux JO, ils sont finalement pas réussi à se qualifier au TQO, au tournoi qualificatif olympique. Mais voilà, bien sûr, c'est un honneur d'être dans cette présélection. On verra à l'avenir si j'y suis entièrement.
Et oui, et l'avenir, c'est notamment les Jeux de Paris 2024. Est-ce que c'est un de tes objectifs personnels d'y participer?
Oui et non. Faut voir comment ça se passe au niveau de ma santé, au niveau du 5-5. Ouais. Je vais privilégier ça, je pense, particulièrement au niveau familial aussi, parce que ça prend beaucoup de temps avec beaucoup de voyages et la saison de 5-5 est malgré tout éprouvante. Et si je continue sur le 3-3 l'été, ça fait que je ferai du basket toute ma vie et toute l'année. Donc voilà, il y a une vie aussi à côté, mais pourquoi pas, ça peut être un objectif à court, moyen terme, très intéressant.
Ouais. Ouais, ça dépendra de ce que tu feras.
Sur le moment, ouais, et sur et voilà, voir après avec les équipes de France tout ça.
Messieurs, est-ce que vous avez des questions à poser encore une fois à notre invité?
Bah, on va revenir sur ce dernier point. C'est vrai que pour le grand public, avec les JO qu'il y a eu cet été, je pense que ça a mis une vue sur cette discipline qui est vraiment pas connue encore en France, ou très peu en tout cas, qui est un peu underground encore. De ton point de vue, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi olympique? Et c'est de mémoire, juste ensuite, il y a eu c'était les championnats d'Europe.
C'est ça.
Qui ont été organisés au Trocadéro.
C'est ça.
Pareil, donc, petite répétition quelque part aussi en vue des JO. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de tous ces événements?
Je suis content que le 3-3 s'agrandit et prenne de plus en plus de place en France, que les gens commencent à connaître. C'est vraiment une discipline qui est impressionnante de par son volume de jeu. C'est un volume très court, avec beaucoup, beaucoup d'intensité, de contact. Donc c'est voilà, une discipline vraiment impressionnante. Et sur le très bon résultat des filles au JO, ont permis une bonne visibilité. Et surtout, elles ont été médaille de bronze là, au championnat d'Europe en septembre. Et bon, malheureusement, les garçons se sont arrêtés en quart de finale, mais voilà, je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur avec des moyens qui sont mis par la Fédé, donc voilà, c'est bien.
C'est vrai que c'est important de mettre la lumière hein, toujours sur des belles disciplines. Et moi, personnellement, ouais, c'est vrai que j'avais regardé le 3-3 féminin donc au JO. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Ça bouge tout le temps. Il n'y a jamais de repos. C'est des périodes très court aussi, ouais, faut le dire.
C'est 10 minutes.
Ça, c'est 10 minutes,
mais
c'est
très intense. Pure intensité.
D'ailleurs, ouais, quand on sort d'un match comme ça, on doit être lessivé en fait.
Ouais, on est lessivé. C'est très très intense. Il faut. La lucidité est très importante parce que quand les 5 premières minutes sur des équipes serrées, ça se joue pas à ce moment-là. Ça se joue vraiment dans les 5 dernières minutes où la lucidité est pour certains un peu moins bonne. Et du coup, les très fortes équipes comme les Serbes en profitent. Et ça se joue sur beaucoup de détails, le 3-3, parce que le score, si on gagne en 21 ou alors en 10 minutes, ça va très vite et voilà, il faut être lucide.
Ouais, et en plus, il y a plusieurs matchs dans la même journée, quoi. Donc,
sur des compétitions officielles, il y en a 2 voire 3 dans une même journée, il ne peut pas y en avoir plus. Mais il faut normalement, quand c'est sur les équipes de France, heureusement qu'il y a un bon staff médical parce que la récupération est très importante entre les matchs.
Ouais. Et justement, entre deux matchs, quand c'est. Concrètement, c'est des phases de massage et de repos où il y a encore un peu de remise en place tactique.
C'est ça, il y a un peu des deux en fait, ça dépend le lapsus de temps qu'il y a entre les deux. Après c'est avec le staff, les coachs, tout ça, qui se mettent d'accord, peut-être un retour vidéo, voir analyser son prochain adversaire et essayer de faire un petit peu de soins pour les personnes qui en ont besoin. Mais c'est les deux points très importants entre les matchs.
Ouais, donc c'est vraiment une discipline où on est toute la journée à 100%, c'est ça. Même dans les temps de repos, quoi.
Max, t'as une dernière question ?
Ouais, si on peut aborder le prochain match qui arrive, donc c'est ce samedi, vous jouez face au Sable Vendée Basket, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est un. Comment vous voyez le match ? Est-ce que c'est un adversaire que toi personnellement tu connais ou que l'équipe connaît ?
Ouais, on les connaît bien, on les a joués 2 fois en préparation. C'est une grosse équipe hein, qui a affiché des grosses ambitions cette année avec à moyen terme, court terme, une montée en Pro B. Donc voilà, c'est une grosse équipe de notre division. On les connaît bien, on a gagné 2 fois contre eux en préparation, mais ça va être là-bas dans un autre contexte, match officiel. Donc ça peut être un match facile pour nous, mais je pense qu'on est capable de gagner. Ouais.
Et puis il va falloir être costaud parce que je vois sur le classement qu'eux ont déjà 3 défaites en 5 matchs. Donc je pense que devant leur public, ils auront à cœur de se racheter, d'aller accrocher une victoire contre une équipe qui est invaincue pour l'instant cette saison.
Ouais, c'est ça. Ils ont déjà 3 défaites. C'était pas attendu pour eux. Ils sont déjà un peu sous pression parce qu'il y a des gros joueurs dans leur effectif, donc ils sont sous pression et forcément quand on va se déplacer maintenant, on est pour l'instant invaincu. Donc dès qu'on se déplace dans une salle ou qu'on joue contre des équipes, ils ont à cœur de faire tomber l'équipe invaincue.
Est-ce qu'il y a des équipes que tu crains plus en particulier ?
Il y a des grosses équipes avec des gros effectifs. On a battu Lorient qui était le favori de notre poule. Mais voilà, après chaque équipe a vraiment un style de jeu ou des joueurs différents qui font qu'on peut avoir des craintes. Mais voilà, il faut aussi on se focalise sur nous et notre jeu. Avec la confiance qu'on a actuellement, on n'a pas de soucis à se faire, je pense.
C'est vrai que t'as une question.
Justement, oui, par rapport à ça, selon toi, est-ce que le groupe prend déjà conscience que quelque part leur tête va être mise à prix après 5 victoires d'affilée?
Ouais, on en est conscient et on commence à. On le ressent vraiment dans le discours des joueurs adverses, voire de leur coach. On le voit dans la presse qu'ils annoncent clairement qu'eux, ils veulent aller battre l'équipe qui est invaincue. Forcément, ça serait glorieux pour eux qu'une simple victoire. Donc voilà, on se met pas de pression par rapport à ça. On sait qu'à un moment, on va certainement perdre un match. Mais ça sera pas très grave. J'espère le plus tard possible. Mais pour l'instant, on est sur une bonne lancée. On va continuer comme ça.
Eh bien, merci Stéphane Gauthier d'avoir été avec nous donc pour parler de toute cette actualité de l'EAB. Voilà, c'était un plaisir de te recevoir. Et puis donc bonne chance pour ce match qui arrive donc samedi au Sable, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Merci à vous.
T'as peut-être un dernier mot pour nos auditeurs
On m'a toujours dit que dans le Maine-et-Loire c'était une terre de basket, alors j'espère que vraiment voir du monde dans la salle, et il y a déjà beaucoup de monde sur ce début de saison, donc voilà, venez nombreux, on joue mardi prochain à Jambouin pour j'espère une 7e victoire d'affilée vu qu'on gagnera samedi.
Effectivement.
Bon, si la Fédé nous écoute, vous pouvez décaler les matchs le mercredi parce que nous on peut les voir.
Effectivement. Mais on sera peut-être bientôt au stade.
Peut-être, voilà.
C'est en étude bientôt, peut-être. Max, un petit point sur la Ligue des Champions. Il y a un gros match qui est attendu en France. C'est le Paris Saint-Germain qui reçoit le RB Leipzig. Est-ce que tu peux nous donner quelques compositions d'équipe si tu les as sous les yeux?
Oui, j'ai les compos sous les yeux. Alex, oui, donc pour faire un petit point contextualiser le classement de la poule, hein, le PSG qui avait commencé par un match nul face à Bruges, puis qui avait gagné face à Manchester City. Et donc là, les Parisiens ont l'obligation de gagner puisque en face, Manchester City a gagné face à Bruges. Et donc Manchester City a pris provisoirement la tête de la poule. Et donc il y a quelques surprises, et il y a notamment une surprise dans cette composition du Paris Saint-Germain, puisque c'est l'absence de Neymar qui est blessé, il me semble, ou du moins pas forcément au point pour être sur la feuille de match, et c'est Draxler qui prend sa place. Sinon on retrouve une équipe plutôt type, hein, du côté du PSG, avec Messi et Mbappé à côté de Draxler. Donc un milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain, avec Marco Verratti, Idrissa Gueye et Ander Herrera, et puis la défense type également, Achraf Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes. À noter une fois de plus, hein, l'absence de Sergio Ramos, qui ne reviendra pas encore avant quelques semaines. Et puis au goal, Donnarumma est blessé également, il me semble, et donc ce sera l'occasion pour Keylor Navas de remontrer l'étendue de son talent. Et puis du côté adverse, du côté de Leipzig, grosse attention sur l'ancien parisien Christopher Nkunku, qui fait un très très gros début de saison, probablement le plus gros début de saison de sa carrière.
Et voilà, donc c'est une soirée de Ligue des Champions qui est à suivre donc ce soir. Profitez bien donc de ces deux jours de Ligue des Champions. Demain il y aura quelques autres matchs. Alors déjà, sur les affiches de ce soir, on peut en parler. Il y a l'Atlético de Madrid qui reçoit Liverpool, Porto qui reçoit le Milan, l'Ajax qui reçoit Dortmund, le Sheriff Tiraspol se déplace à Milan pour y défier l'Inter, et le Real Madrid va du côté de l'Ukraine pour y jouer le Shakhtar Donetsk. Demain, parmi les grosses affiches, déjà on a l'autre club français, hein, Lille, qui reçoit Séville à 21h. Dans la même poule, Salzbourg reçoit Wolfsburg. On a également Chelsea qui reçoit Malmö, la Juventus de Turin qui va du côté de la Russie et pour y défier le Zenit Saint-Pétersbourg, Manchester United reçoit l'Atalanta Bergame, ce sera également un très beau match à suivre, Villarreal donc va du côté de la Suisse pour y défier les Young Boys de Berne, et dans le groupe E, Benfica reçoit le Bayern Munich et le Barça reçoit le Dynamo Kiev. Donc voilà, une très belle semaine de Ligue des Champions à prévoir.
Et puis avant de rendre l'antenne, on va vous rappeler le programme chargé de cette semaine, la semaine des 40 ans de la radio, de Radio G. Aujourd'hui, il y a eu deux émissions en direct de Bocuse dans un bus Irigo, et dès demain, vous pouvez retrouver deux émissions en direct de 11h à 13h et de 18h à 20h à Trélazé. Jeudi qui arrive, ce sera les mêmes horaires, mais cette fois-ci en direct de Saint-Léger-de-Linière. Et puis enfin, on clôturera cette semaine des 40 ans vendredi avec deux directs, donc de 11h à 13h et de 18h à 20h à Angers, en direct de la place Lorraine et de la salle d'Avier à côté du CHU. Et puis cette semaine des 40 ans se terminera en beauté par 40 heures de direct. Ce sera un dispositif exceptionnel qui va être mis en place par Radio G. Donc ça commencera le vendredi midi ou vendredi après-midi, puis ça se terminera dimanche pareil dans l'après-midi. Donc voilà, gros programme sur Radio G. On vous invite bien évidemment à rester branché pour les jours qui arrivent.
Et donc on va se quitter avec le générique, et on vous souhaite un bon mardi soir, et on se dit à mardi prochain pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Bye.